Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Café des Sports de Radio Foot ouvre ses portes. Soyez les bienvenus. Venez nous écouter, même nous regarder, nous admirer. Nous sommes dans votre poste de radio et comme chaque vendredi également sur vos écrans. Ne ratez pas notre Facebook Live. Venez réagir sur la page de Radio Foot International. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour mon cher, et surtout j'ai constaté aujourd'hui que pratiquement tu es prêt à la bagarre, parce que là tu as commencé à te déboutonner.
En tout cas, moi je suis...
Parce que c'est bon, c'est pareil, il y aura du choc là.
Je suis plus coloré que vous, tout de blanc vêtu. C'est quoi, c'est un signe? Vous êtes là pour faire la paix, c'est ça? Avec Xavier Barret.
La paix, surtout pour annoncer déjà la colombe qui est en train de s'envoler vers des cimes, la hauteur, la Maison Blanche qui est en train d'aller au paradis.
Bonjour Xavier Barret.
Salut Hugo, je dirai rien tout de suite en intro, on réserve les arguments pour plus tard.
Philippe Doucet avec nous également, bonjour Philippe.
Bonjour monsieur Hugo.
Alors on est filmé, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait de la télé avant, peut-être un petit peu.
J'ai un lointain souvenir, là je suis en sueur, c'est pas bon alors.
Il va falloir nous préparer quelques
maquillage,
petites palettes.
Maquillage.
Quelques petites palettes, les palettes à dos douce pour décrypter les cheminements intellectuels de Rémi Ngono. Parce que là vraiment on a du mal hein, depuis.
Là, je crois qu'il y a des sens interdits qui ne permettent pas d'analyser.
Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Plus sombre dans la tenue vestimentaire.
J'ai mis le bleu et les granats, ce sera pour demain.
Et un invité spécial ce vendredi, François David. Bonjour François.
Bonjour Hugo.
Docteur en barcelonologie appliquée.
Ouais.
Non, c'est un petit peu pompeux peut-être.
Non, oui, un petit peu.
Correspondant de RFI, voilà, dans la capitale.
C'est beaucoup mieux. Et moi, je suis prêt aussi pour la bagarre avec Rémi qui est à côté de moi.
Ah, mais il est déjà vaincu, vous voyez. Il a déjà pris mon maillot.
Merci d'être passé nous voir, François.
Merci
à
vous.
À Paris pour quoi? Vous êtes venu chercher Neymar, c'est ça?
Bah, a priori, oui. Bah, il va peut-être aller là où il était le plus heureux, c'est-à-dire à Barcelone. Et peut-être que du côté de Madrid et Florentino Pérez, on va souffrir de ça, mais en tout cas tous les signaux a priori seraient au vert pour que Neymar revienne au Barça.
Et vous êtes habillé en blanc, c'est un peu une provocation, c'est ça?
Non mais moi je suis pour la paix aussi, donc c'est en blanc.
En tout cas la vedette brésilienne est encore et toujours au menu des discussions, de nos discussions. Le Barça peut-il encore espérer rapatrier son génie brésilien, son ex-génie brésilien? À la carte également, le football féminin, la rentrée des Françaises. À quoi ressemble l'après-Coupe du Monde féminine en France? Mais pas que, on se posera la question. Chez les messieurs, la plus belle affiche du week-end opposera Arsenal à Liverpool. Après un départ canon, le premier depuis des lustres, les Gunners vont-ils être à la hauteur de ce premier test? Peut-être le match de la révélation pour Nicolas Pépé, qui sait? Et puis en dessert, les gardiens du Paris Saint-Germain, l'éternel problème, et les cartons, la spécialité de la maison. En cuisine, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin, Laurent Salerno, le chef cuistot, les débats sont ouverts.
Pedro, una vaselina, pero atención a esta nueva llegada del Barcelona. Fábregas para Neymar, ahora sí, gol del Barcelona. Marcó Neymar.
Le foot est devenu uniquement le business. On négocie le prix, ou le prix affiché ne veut rien dire. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'au fond d'eux-mêmes, finalement, les dirigeants parisiens n'aimeraient pas voir partir Neymar.
Le feuilleton de l'été ne connaît pas encore son dénouement, mais il alimente nos sommaires, nos chroniques. Joseph-Antoine Bell pense que Neymar ne quittera pas Paris. Il s'est exprimé sur le sujet hier dans Radio Foot. Hein. Le légendaire portier des Lions indomptables, mais on le sait, la vedette brésilienne, Neymar rêve de retrouver son Barça chéri pour reformer la MSN aux côtés de Messi et de Suarez. Le problème, c'est qu'on lit un peu partout qu'il serait trop cher pour le club catalan. François David, quelles sont vos informations? Le Barça peut-il encore raisonnablement rêver d'un retour de Neymar?
Raisonnablement, oui, s'ils en rêvent, c'est évident. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être réveillés un petit peu plus tard, parce que la direction avait misé plus sur Antoine Griezmann en mettant 120 millions d'euros que sur Neymar. Le problème, c'est que dans le vestiaire, vous l'avez dit, Luis Suarez, Lionel Messi, tous ses amis dans le vestiaire mettent une pression énorme sur la direction sportive du Barça pour ramener Neymar. Que ce soit José Maria Bartomeu, le président, Eric Abidal, le directeur sportif, et tous les directeurs financiers, le pôle financier, sont en train de se remuer les méninges depuis quelques semaines pour essayer de trouver une solution. Il faut convaincre Paris. Mais là, on se rapproche quand même de la fin du mercato. Et Neymar est en train de mettre une pression terrible sur le PSG. Et Messi, comme on l'a dit, en met une sur le Barça. Donc je pense, moi, que la logique devrait quand même prévenir. Le pragmatisme devrait l'emporter. Et que sûrement, voilà, Neymar devrait peut-être revenir au PSG.
Et au Barça, pardon. Vous avez des informations. Quel lapsus?
Bah, disons que l'équation est assez claire. Neymar ne veut aller qu'à Barcelone. Donc déjà, toute idée de l'envoyer ailleurs est un peu étrange dans la mesure où lui, il est très clair depuis le début là-dessus. Et que Barcelone, malgré les réserves d'une partie des supporters et des dirigeants, veut le recevoir, ne serait-ce que pour faire plaisir au cador du vestiaire. Donc à partir de là, il faut trouver un accord. Il semblerait que depuis ce matin, les choses évoluent assez rapidement et on s'achemine vers un accord sous une formule de prêt avec option d'achat obligatoire sans doute, avec probablement Ousmane Dembélé également dans l'équation.
Ouh, on reparlait de Ousmane Dembélé dans quelques instants. Rémi, vous croyez au retour de Neymar à Barcelone ?
Je suis un fervent chrétien comme ma mère qui attendait le retour de Jésus-Christ sur terre et qui est morte sans voir Jésus-Christ rentrer. Donc pour l'instant, pour ceux qui sont également aussi à attendre avec des klaxons et des tambours, l'arrivée du sauveur du nouveau Messie, Neymar, avec des pieds blessés, avec des métatarsiens qui ne fonctionnent plus, eh bien, il risque malheureusement d'être beaucoup déçu parce que financièrement, comme il dit, le pragmatisme voudrait que tout aujourd'hui se parle en fonction de l'argent. Le PSG voudrait se renforcer. Le PSG ne veut pas se renforcer avec des belles paroles et surtout avec les vœux pieux d'un Neymar qui voudrait rentrer dans sa maison que lui-même a abandonnée, qu'il trouvait comme pratiquement un purgatoire. Maintenant, on veut me faire comprendre qu'ils vont accepter un prêt. Et le PSG, lui, il veut un gardien de but. Le gardien de but, il faudrait l'acheter peut-être au Real Madrid. Ils vont l'acheter avec quoi? Ils n'ont pas assez d'argent. Donc actuellement, au regard des relations qui sont probantes, qui sont conviviales, qui sont cordiales, entre le Real Madrid et bien évidemment le Barça, ça peut bien aller. Neymar n'est pas né au Barça. Neymar voulait d'abord aller au Real Madrid, sauf qu'il a été enlevé nuitamment par les dirigeants catalans. Donc aujourd'hui, si on me dit que il voudrait retrouver la maison que lui-même il avait abandonnée, c'est comme si tellement on était venu lui faire un enlèvement. C'est lui qui a voulu partir du Barcelone. Et aujourd'hui, on me dit qu'il va revenir. Il y a un proverbe africain qui dit « Les bons oiseaux ne reviennent pas dans des vieux nids ».
Le choix de vos mots me laisse parfois songeur, Xavier Barré.
Oui, parce que dire que sa maison, c'était le Real Madrid, il n'y a jamais mis les pieds. Il y avait eu effectivement des discussions, comme souvent ces grands joueurs qui sont convoités par les grands clubs. Bon, et finalement, il a choisi Barcelone, où il était très heureux. Et c'est probablement là où il a été le meilleur dans sa carrière de joueur. Ça a été à Barcelone. Donc effectivement, vu ce qui se passe à Paris, il a envie d'y retourner. Le problème, c'est que les dirigeants catalans ont organisé l'équipe sans lui depuis 2 ans maintenant. Même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils sont quand même champions d'Espagne. Ils ont quand même assez bien reconstruit l'équipe, rajeuni aussi, hein, on parlait d'Ousmane Dembélé, qui lui d'ailleurs ne veut pas quitter Barcelone. Faut croire qu'il y fait très bon vivre, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc vrai. Du coup, toi tu y es toute l'année, François, donc tu sais qu'il y fait bon vivre. Et donc finalement, aujourd'hui Neymar, il veut aller à Barcelone, oui, mais le PSG, il veut s'y retrouver, c'est normal. Ils avaient payé 222 millions d'euros pour le faire venir. Et actuellement, eh bien, le Barça, comme ils ont recruté Griezmann, qu'ils ont aussi renouvelé l'effectif, eh bien, ils n'ont pas ces liquidités pour le payer. Donc, je suis pas sûr que Neymar soit... je pense que Neymar peut encore être au PSG cette saison.
Alors, petite précision, petit problème d'image hein, sur notre Facebook. Nous sommes tout de même filmés. L'image, pour l'instant, n'est pas diffusée en live sur Facebook. Vous retrouverez l'image après l'enregistrement, après la diffusion de cette émission. Pour admirer le sourire un peu narquois de Rémi
Ngo. Le proverbe avait suffi pourtant. Pas de l'image.
D'où c'est votre avis sur l'éventuel retour de Neymar en Catalogne?
J'écoute tous les avis. Ils sont tous intéressants. Mais on ne sait absolument pas ce qui se passe. Il faut être quand même assez concret.
On en apprend tous les jours et c'est démenti aussi un petit peu tous les jours.
Non, mais oui, tout ce qu'on apprend est souvent faux par définition, puisque ce sont des discussions par définition parfaitement secrètes. À l'intérieur de Milly Milo, incalculable, quand je lis des journaux qui se lancent dans des trucs, oui, il serait échangé avec 3 joueurs. Oui, d'accord. Les 3 joueurs sont d'accord. Aucun va faire surenchère. Aucun va dire non. Etc. C'est des trucs, c'est des monopolies absolument ahurissants. Et tout le monde croit à des choses qui se font avec des grandes difficultés et qui se font pas comme ça. Je veux dire, c'est extrêmement complexe. Ce sont des calculs extrêmement complexes. J'entends aussi les clubs n'ont pas d'argent. Quel mensonge incroyable! On est à une période, jamais les grands clubs ont été aussi riches. Ils ont tous beaucoup d'argent. Ils ont juste un problème, c'est qu'on les contrôle.
Ça, c'est nouveau. Financier.
C'est nouveau. Ça, c'est récent, on les contrôle. Mais sinon, ils ont tous un pognon, mais de dingue. Ils peuvent tous acheter la meilleure équipe du monde, sauf qu'on ne leur laisse pas le droit. Heureusement, parce que sinon, le foot serait de plus en plus vide. Donc, je sais même pas quoi dire devant cette espèce de monopoly qui, franchement, est aux confins des ridicules. Et j'espère que l'affaire Neymar ne servira qu'à une chose, c'est qu'on réglemente enfin les transferts parce que c'est grotesque.
Alors, revenons à ce qui est vrai, à ce qui est avéré. Pour l'instant, pas de Neymar à Barcelone, mais un Dembélé qui cause pas mal de soucis, qui ne veut pas bouger, mais qui énerve quand même pas mal de monde. En Catalogne, on va pas se mentir, dernier épisode en date, une nouvelle blessure contractée face à l'Athletic Bilbao lors de la défaite au Pays Basque le week-end dernier. François David, le problème c'est que lors de ce match, malgré la blessure, il n'a pas demandé à sortir, le jeune Français. Et le lendemain, il était attendu pour faire quelques tests, évaluer un petit peu sa blessure. Et il est parti en week-end à Rennes, quitter Barcelone pour aller à Rennes. Quelle drôle d'idée, surtout quand vous êtes
blessé. Il avait quelque chose à faire à Rennes, on sait pas, mais...
Je rigole, évidemment, je plaisante. Le résultat, c'est que son retour, ce ne serait pas avant la fin septembre. Du coup, que penser de cette nouvelle affaire d'Embélé, François David?
Alors le truc, c'est que déjà, il a fait un très mauvais match contre Bilbao. Il a perdu plus de 15 ballons. Il suit pas son défenseur à l'origine du but de Adouris dans les dernières minutes. Il s'est fait remonter les bretelles par Gérard Piqué en plein match suite à l'action du but. Il sent cette contracture. Il prévient pas le médecin, il dit que ça va pas, il est convoqué comme vous l'avez dit Hugo, il vient pas, faute professionnelle. Le vestiaire, la direction sportive du Barça le voit comme ça, et en tout cas désormais Dembélé est très 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 mal vu du côté du Barça. Philippe disait que...
C'est pas la première fois.
Non, et c'est la 6e blessure à la cuisse de Dembélé en 2 ans.
Et alors dans l'équipe, ce matin, je vais citer nos sources, on lit qu'un de ses proches trouverait que les entraînements du Barça ne seraient pas assez intenses en termes de communication. C'est pas terrible de venir expliquer que le Barça est pas à la hauteur en termes d'entraînement.
Surtout si on veut rester. Non, mais effectivement, c'est de toute façon, on sait que c'est cette affaire Dembélé depuis son départ de Rennes, il est mal géré, il est pas bien entouré, ses conseillers ont changé, il y a eu des drôles d'histoires autour, et c'est un garçon qui est difficile à gérer. Il faut rappeler quand il est arrivé à Barcelone, effectivement, il a tous ses copains qui ont débarqué, ils font la Java tous les soirs ou presque, et puis au bout d'un moment, le club s'est
mal.
Dit, oui, ça peut encore se comprendre surtout à son âge, mais bon, au bout d'un moment, le club a dit il faut faire quelque chose, et notamment comme il se nourrissait très mal. Ils lui ont mis un cuisinier à poste
pour un nutritionniste
pour que au moins il s'alimente correctement. Donc forcément, ce manque de professionnalisme.
Mais comme Sorva, il mange même pas les repas du nutritionniste.
Non, on en a quand même à 4 cuisiniers hein, pour Dembélé.
Et j'en connais un qui, en parlant de cuisine, boit du petit lait en écoutant comme ça, en nous écoutant évoquer les problèmes d'Ousmane Dembélé, n'est-ce pas, Rémi Ngono?
Mais bien évidemment, quand vous partez acheter un hibou, vous n'allez pas le transformer en colombe juste parce que vous allez le plonger dans le bain.
Champion du monde.
Donc attendez, lorsque vous regardez Ousmane Dembélé, c'est ce qu'on appelle le prototype de rebelle qu'on est parti recruter, parce qu'à Dortmund, il faut savoir que pour qu'il vienne quand même, le gars il sèche non seulement les entraînements, mais le Barça le soutient. Et voilà un joueur qui, normalement, devait être acheté à 80 millions, tellement il a fait le gros dos que le Barça s'est retrouvé en train de le vendre à 105 millions plus 49 millions d'euros de bonus. C'est exagéré. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il arrive au Barça, il est dans le libertinage absolu parce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que il est mal nutri. Mais quand il débarque au Barça, il a qui? Il a Diaby, c'est-à-dire que un cousin comme ça qui a 19 ans, il a un grand frère qui a à peine 22 ans, donc actuellement il a à peu près 24 ans. Voilà les gens qu'il encadre, parce que quand il était enfant, c'est sa maman qui préparait. Et puis, tout ce qu'il a eu à faire, on a laissé qu'il le fasse au niveau du Barça. Rappelez-vous que après la victoire contre Girona l'année dernière, 6-1, mais il a pris le vol pour aller à Marrakech sans demander à qui que ce soit. Il est revenu gaillardement. Le club l'a plutôt privilégié, l'a plutôt protégé. Et le club se retrouve là entre plutôt de mettre Coutinho que non, mais c'est lui plutôt qu'on va se débarrasser de lui, alors que c'est Dembélé qui est régulièrement blessé, c'est Dembélé qui commet tous les dégâts de la planète Terre, et finalement, il y a un autre proverbe africain qui dit, en voulant aménager le clou, on tue le cheval.
Alors que c'est la faute du Barça si Dembélé connaît autant de déboires, Alejandro Valente.
Oh, je pense que quand même Dembélé a eu plusieurs occasions de se racheter, plusieurs opportunités lui ont été accordées, et aujourd'hui je crois que son crédit est épuisé et il peut bien vouloir rester à Barcelone, à mon avis, c'est devenu impossible. Il y a une rupture totale. Oui, il y a un contrat, mais
il a pas envie de partir.
Mais les contrats sont faits pour être
pour ne pas être respectés.
Moi, je suis d'accord avec Alejandro. Il suffit que si Dembélé est la clé pour faire venir Neymar. Suffit que Messi le prenne à part dans les séries. Écoute mon coco, maintenant c'est fini. Je te ferai plus de passe. Je vais te mettre bien devant le monde entier, sauf si tu pars. Donc tu vas partir. Et Messi est capable de le faire, ça, de
le prendre à part.
De le prendre.
Bien sûr.
Messi, Piqué, Busquets, Suarez, les quatre leaders du vestiaire, ils peuvent prendre Dembélé à part et lui dire maintenant. Tu t'en vas, voilà la porte. Et si tu n'es pas content, tu vas te carrer.
Il s'en irait pas n'importe où, puisqu'il irait au PSG, oui. Il retrouverait Mbappé avec qui il s'entend plutôt bien.
Très
bon,
bien.
Maintenant, est-ce que ce sera une bonne affaire pour le PSG? Ça, c'est autre chose.
Alors, du coup, qui en attaque pour affronter le Betis ce week-end? Suarez, il est toujours blessé.
Il y a Griezmann, heureusement.
Voilà, alors il reste plus qu'à. Il reste plus qu'Antoine Griezmann, le Betis. Obligation de s'imposer à domicile pour le Barça, histoire de lancer un peu la saison, qui a commencé par une défaite, Philippe Doucet. Et Antoine Griezmann, une occasion à saisir pour prouver qu'il a bien fait d'aller là-bas, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde.
Oui, enfin, il n'y a pas que Griezmann, il y a Messi qui rentre, donc ça aide évidemment énormément pour le Barça. Bon, tous les messages en début de saison, évidemment, dès le premier match, il faut gagner, le deuxième, il faut gagner aussi, le troisième, il faut gagner, il y en a 38 comme ça, c'est normal, c'est la vie des grands clubs. Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est tout à fait inhabituel que le Barça ait perdu le premier match, donc il y a une petite tension artificielle autour de ce deuxième match, mais oui, évidemment, il y aura besoin de l'emporter, mais s'il fera l'affaire, comme d'habitude.
Et Griezmann, non, vous le voyez pas?
Oui, mais Griezmann
débloquer un petit peu son compteur, ouvrir même son compteur.
Non, moi, je pense que Griezmann est totalement compatible avec le Barça et qu'il fera son trou. Après, l'histoire dira si on nous ramène tout d'un coup Neymar, si on fait quelques plaisanteries de dernière minute, peut-être que ça compliquera la tâche, mais il fera l'affaire, Griezmann, dans ce club-là, j'ai aucun doute là-dessus.
Mais le problème de Griezmann, c'est qu'il s'est retrouvé avant-centre à Bilbao, après la sortie de Suarez, et c'est un joueur de talent, mais c'est pas son poste. Et le problème du Barça aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus d'avant-centre. Puisque on commence à entendre des noms.
Le grand Barça de Guardiola n'avait pas toujours d'avant-centre et ça les empêchait pas de gagner.
L'important, c'est d'avoir des attaquants. Hein.
On est d'accord, mais là.
Après, qu'il joue avant-centre ou pas, Messi peut jouer avant-centre. Hein. Il l'a fait pendant des années sans que ce soit rédhibitoire sur son compteur but.
Mais une histoire de disposition, est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions, Griezmann? Si je vous suis, c'est un petit peu l'interrogation, Xavier Barré.
Moi, je pense qu'effectivement, sans Luis Suarez comme point d'appui, la saison dernière, même si ça n'a pas été une réussite, ils sont allés piocher au dernier moment Boateng, là, Kevin Prince Boateng. Ça a été un bide, mais c'est parce qu'on sent qu'ils ont besoin d'un avant-centre, un vrai avant-centre, capable de peser sur la défense. Le Barça n'a jamais été aussi fort que quand Messi butait, et ben on faisait rentrer Alexis Sanchez en premier écran, qui venait appuyer sur la défense adverse, et du coup Messi pouvait plus facilement passer. Et avec Luis Suarez, c'est ce qui se passe.
Que pour Griezmann, c'est une occasion parfaite pour s'imposer devant le public et montrer qu'il peut être effectivement quelqu'un qui peut tirer du Barça, alors qu'on est habitué à voir un Barça Messi dépendant depuis des années.
Rémy Nguenot.
J'avais déjà dit, tous ceux qui sont en train de nous faire tous ces beaux couplets cocoricotants, j'ai toujours dit, soyez bien contents, mais vous serez déçus parce que tout ce qu'ils disent que Griezmann est compatible au Barça, c'est archi faux. Archi faux. Griezmann a appris à jouer avec Diego Simeone, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possession de la balle. Donc, il trouvait les ouvertures derrière les défenses, il faisait les appels. Le Barça a la possession, il n'est pas habitué à ça. Deuxième des choses, aujourd'hui, quand on me parle, parce que ce Atlético jouait en 4-4-2, donc il jouait comme deuxième avant-centre. Ce qui me parle aujourd'hui que, par rapport aux avant-centres, même Alcacer, qui s'impose aujourd'hui avec Dortmund, n'a pas réussi à s'imposer avec Messi. Le seul avant-centre qui a réussi à s'imposer ou bien à jouer, à être compatible avec Messi, c'était qui? C'était Suarez. Et pourquoi? Parce que Suarez, quand il est recruté, Suarez est suspendu pendant 4 mois de toute activité sportive. Ce qui signifie que de novembre jusqu'en janvier, il s'entraîne avec Messi.
Là, de juillet jusqu'à novembre.
Or là, Griezmann ne sait même jamais, il n'a même jamais joué avec Messi, puisque à peine Messi revient, qu'il est déjà blessé. Et là, ils vont se retrouver dans un match où ils ne parlent pas la même langue, ils ne sont même pas d'humeur compatible. Il a fallu regarder au niveau de la présentation. Vous dites aujourd'hui que Messi voudrait que, par exemple, Neymar revienne. C'est parce qu'il ne trouve pas beaucoup de confiance en Griezmann. Donc pour moi, comme tous les autres, il va se foirer au Barça.
Vous conservez beaucoup trop le ballon et la parole, mon cher Rémy. François-David, le mot de la fin sur ce chapitre catalan.
Pour un supporter du Real, il aime bien avoir la possession, en tout cas, notre ami, ami Rémy. Non, moi, je pense que les grands joueurs, ils vont s'entendre. Je suis d'accord avec Alejandro, Griezmann et Messi, ils vont s'entendre. Il a été formé à la Real Sociedad, qui était plutôt une équipe offensive. Et s'il est venu aussi au Barça, c'était pour avoir plus d'occasions de but, parce que c'est vrai qu'à l'Atlético de Madrid, il en avait 2-3 par match, et il jouait beaucoup le compte. C'est un joueur quand même qui a du ballon, Griezmann, et ça va marcher.
Pré-saison, un but. Ok.
Tel Ousmane Dembélé lorsqu'il arrive à l'entraînement, nous sommes extrêmement en retard. Place aux filles.
Elle va y aller seule.
For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world.
On a la possibilité de réussir et de réussir chez nous. Et moi, je sais une chose, c'est 98 a été le déclencheur pour le foot masculin. Parce que la compétition s'est jouée chez nous. Là, je suis persuadé que ça peut avoir le même effet de déclic pour le football féminin.
Emmanuel Macron, le président français, voulait que la Coupe du Monde féminine 2019 soit une sorte d'équivalent, de calque de ce qu'avait été la Coupe du Monde 98 pour le football masculin en France. Un tournant, le mot est faible en termes d'engouement, de développement. Une différence de taille, bien qu'évoluant à la maison, les Bleus EUS se sont arrêtés en quart de finale, laissant les Américaines triompher une nouvelle fois dans la compétition. Les Françaises sont en pleine rentrée des classes, avec la première liste d'après-mondial pour Corinne Diacre, dans la perspective d'un amical contre l'Espagne, hein, François-David. L'occasion a peut-être posé de se poser cette question. Philippe Doucet, j'ai commencé par vous. Sommes-nous au début, donc, de cette nouvelle ère annoncée pour le football féminin en France?
Ça se jugera pas seulement à la sélection, parce que là, pour l'instant, on a eu une occasion magnifique, qui est une Coupe du Monde. Coupe du Monde féminine, c'est effectivement le haut niveau, enfin, en tout cas, à partir d'un certain stade dans la compétition. J'ai vu qu'on était passé à 32 pays, ça va peut-être être difficile, mais enfin bon, ça c'est des étapes nécessaires pour le développement du football féminin, qui n'est pas encore complètement mature. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde avec des équipes un petit peu faibles. Et puis surtout, l'autre terrain de jeu, si j'ose dire, c'est le championnat. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'entende pas parler du tout du championnat, parce que le quotidien, le football est un sport qui a besoin de quotidien. Certes, les belles épreuves, les grandes épreuves, c'est fabuleux. Mais si le modèle du développement du football féminin, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on regarde tous ces sports, qu'on ne les regarde que tous les 4 ans, évidemment, ce sera un échec. Je suppose que la FIFA vise beaucoup plus que ça, que la Fédération Française vise beaucoup mieux que ça. Et pour ça, il faudrait parler davantage du championnat, du quotidien, parce qu'il va falloir créer des feuilletons et faire progresser ces compétitions, où il y a encore, en première division française, par exemple, qui est une référence, puisque Lyon gagne tous les ans la Ligue des Champions, mais il y a encore la moitié des joueurs sont amateurs quand même, donc on est encore loin du compte.
Il me semble que Canal+, une maison que vous connaissez bien, fait un effort de diffusion qui va être important.
On le fait, mais c'est pour ça que j'aimerais que ce soit relayé. Il n'y a pas que Canal qui doit faire l'effort. J'aimerais que ce soit relayé. Je considère que parler déjà de la liste de Corinne Diacre, bon, c'est très bien, il faut rebondir aussi à travers l'équipe de France, mais malgré tout, il faut pas oublier le quotidien. Il faut créer un feuilleton du football féminin, sinon bah, ça va être comme les Jeux Olympiques. Quoi. Tous les 4 ans, on va s'intéresser au curling. Très bien.
Xavier Barré.
Et le problème en France, c'est que le feuilleton, c'est toujours Lyon qui gagne.
Et ben voilà.
Donc c'est vrai que c'est une équipe magnifique, ça c'est un club qui a été très bien structuré et qui est extrêmement attractif puisque les meilleures joueuses du monde viennent jouer à Lyon, mais ils sont tellement au-dessus du PSG, de Montpellier, maintenant il y a l'OM qui arrive, il y a Bordeaux, voilà, on va voir ce que ça peut donner, mais il y a une telle avance pour l'Olympique Lyonnais que malheureusement le feuilleton du championnat est moyennement intéressant. Et comme tu le rappelais, Philippe...
Le progrès, ce sera ça. Ce sera d'avoir un vrai championnat équilibré.
Ouais, et c'est
déjà un rival.
Déjà avoir un vrai rival, puis l'ensemble du championnat équilibré, qui est pas des 8-0 tous les week-ends.
Et c'est Patrice Lhaire qui le déclarait dans une interview il y a quelques temps. Parfois, il disait à ses joueuses, quand il était encore entraîneur de Lyon, il l'est plus depuis, il y en a eu d'autres, mais il disait, faites tourner pour pas que la correction tourne à 12-15-0. Donc, malheureusement, c'est ça l'inconvénient. C'est la force du championnat de France, et qu'il y a une locomotive formidable, le meilleur club européen, peut-être même le meilleur club du monde. Et puis à côté de ça, ben, la concurrence, même si le PSG a fait beaucoup d'efforts, même si maintenant d'autres clubs arrivent, il y a aussi Montpellier qui est un vrai club féminin depuis longtemps, ben, ils sont un peu loin et malheureusement pas capables de faire une vraie concurrence aux Lyonnaises.
Je reviens à l'équipe de France, si elles étaient parvenues à atteindre leur objectif, remporter la Coupe du Monde à la maison, les Françaises, est-ce qu'on aurait ce débat ou est-ce qu'on le poserait de la même manière?
Mais c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, j'interviens parce que on parlait de 98. En 98, Platini nous le rappelait récemment, il s'était arrangé pour éviter que la France et les Brésils se rencontrent avant la finale. Or, on n'a pas eu le même soin pour éviter que la France tombe sur les États-Unis, qui est quand même l'épouvantail trop vite. Et ça a un peu gâché la fête.
Ah, mais c'est la clé. Voilà, je pense que l'équipe de France aurait joué les États-Unis en finale, ça aurait été formidable. On aurait une fête du football, on aurait parlé partout et on aurait pu rebondir. Moi, j'étais en Espagne pour cette Coupe du Monde. Il y a eu, en revanche, un développement médiatique incroyable. Et on parlait de foot, de stade, de combinaison, de stratégie. On aurait vraiment cru que c'était la Coupe du Monde normale. Là, ils vont jouer l'Espagne. On va voir, c'est une équipe aussi en progrès, l'Espagne. Mais effectivement, il manque quelque chose. Et moi, j'ai envie de voir en France, en revanche, c'est ce que je vois en Espagne, des stades comme le San Mamés rempli, le Wanda Metropolitano de l'Atlético Madrid rempli, c'est-à-dire 50 000, 60 000 personnes aussi pour des matchs féminins.
Parce que là, vous élargissez le débat, vous avez raison, François David, au-delà de la France, est-ce que cette Coupe du Monde 2019, elle peut potentiellement être un tournant au niveau mondial, globalement? Est-ce que c'est une Coupe du Monde spéciale, c'est au-delà du fait qu'elle se soit passée en France?
C'est en tout cas ce qu'on a ressenti. Alors peut-être que ce sentiment est un peu amplifié parce que c'était en France au plus près de nous, bien sûr, mais on a quand même ressenti qu'effectivement, là, il y avait un souffle un petit peu nouveau, il y a quand même une valeur montante, je veux dire, le football féminin s'améliore sans cesse. Je ne suis pas aussi pessimiste que Xavier. Bien évidemment, les Lyonnaises vont continuer à dominer, très probablement, mais c'est pas pour... Voilà, il faut pas qu'il y ait 15-0 à l'arrivée, il faut pas qu'il y ait un écart considérable, sinon les matchs n'ont pas d'intérêt. C'est ce qui va bientôt arriver au football masculin. Vous verrez que le football masculin perdra de son intérêt le jour où il y aura des 3 sélections mondiales à la tête de l'Europe et que ce sera les meilleurs joueurs du monde seront répartis dans 3 équipes. Vous verrez la catastrophe que ça peut être pour le football.
Le plus tard possible, alors.
J'espère le plus tard possible, mais on en approche de plus en plus. Mais non, franchement, je pense que oui, qu'il y a un vrai souffle. Et surtout, cette Coupe du Monde féminine, elle a démontré une chose très importante. Bien évidemment, le football féminin, il n'est pas à la hauteur du football masculin. Ça vaut une Nationale 2, une Nationale 3, au mieux, peut-être DH.
Ce qui n'est pas grave.
Et ça n'est exactement la bonne démonstration, c'est que ça n'est absolument pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des épreuves bien organisées, intéressantes, qu'il y ait de l'engouement, qu'il y ait de l'émotion, une histoire à raconter. Et à cette condition-là, un petit championnat peut être un très bon championnat et une compétition féminine peut être une très bonne compétition et s'élever dans le cœur des gens, créer le feuilleton encore une fois.
On partage votre optimisme, mais il nous ravit. Allez, retour aux messieurs, direction l'Angleterre.
PSG Aubameyang, yes, the shot!
Les Gunners prêts à faire feu de tout bois à Anfield, superbe affiche en première ligue. Demain, Liverpool reçoit Arsenal, une équipe londonienne qui a signé un départ canon en championnat de match de victoire, comme les Reds d'ailleurs. Grâce à Aubameyang, grâce à Lacazette, entre autres. Il y a encore quelques mois, il n'y aurait pas eu photo, mais aujourd'hui, on se dit, et vous n'allez sûrement pas être d'accord avec ça, Rémy Ngono, qu'Arsenal peut nourrir quelques ambitions au moment de se rendre à Liverpool. Champion d'Europe en titre, on précise.
Oui, quelques ambitions. Arsenal en avait déjà quand même aussi la saison dernière, sauf qu'à la première mi-temps, c'était 4-1, bien que Arsenal menant un but à zéro. Et puis finalement, on a vu comment est-ce que Firmino, avec un doublé, ça allait émaner, on fait parler leur talent. Mais aujourd'hui, on peut quand même se dire, contrairement à Arsenal version Arsène Loser, le Wenger plutôt, voilà, Arsenal est beaucoup, est nettement mieux. Et surtout avec le duo d'attaquants qu'on devrait quand même aussi, qu'on n'a pas beaucoup vanté. À savoir que quand je vois par exemple un Ousmane Dembélé dont on vient de parler, qui est à 152 millions, et que je me rends compte que lorsque Aubameyang a été recruté en hiver, eh bien on disait, oh là là, c'est trop cher avec 63 millions. Lorsque Lacazette a été recruté à 60 millions, on disait que, oh là là, c'est trop cher. Mais eux, deux, c'est-à-dire qu'ils valent au prix d'Ousmane Dembélé seul, mais ils ont planté 48 buts la saison dernière, enfin ils sont impliqués dans 48 buts toute saison, toute compétition confondue. Donc aujourd'hui, cet Arsenal est beaucoup plus consistant, d'autant plus que lors des derniers matchs quand même, sur le plan défensif, on a constaté que, bon, ils n'ont pris qu'un but. Or, c'était le côté très très faible. Donc pour moi, Arsenal peut faire quelque chose, mais je ne crois pas qu'il puisse gagner.
Et François David est d'accord avec vous?
Bah oui.
Incroyable, tout arrive.
Je les ai vus jouer au Trophéo Gamper au Camp Nou. Ils ont joué contre le Barça. Il y avait la moitié des titulaires qui étaient absents. Ils m'ont fait une super impression, Arsenal. Il manquait Pepe, il manquait leur défenseur. David Luiz n'était pas encore là. Il manquait Leno dans les buts. Mais moi, j'étais impressionné par Aubameyang, hein, qu'on voit là, avec le maillot 14 derrière. Alors, vous allez peut-être crier, hein, mais j'ai cru voir un moment, de temps en temps, voir Thierry Henry. Vraiment, avec le maillot jaune.
Ses temps de passage sont supérieurs.
Eh ben oui, et même dans la manière de courir et tout ça. Alors, techniquement, c'est pas Henry. Mais Aubameyang, je pense qu'il va faire une très très grande saison. Lacazette aussi. Et Nicolas Pepe, pour moi, c'est la super pioche de l'été. Et moi, j'aimerais bien voir enfin Arsenal.
Sauf que là, il a été nul. Même si on parle de super pioche.
On parlait de Nicolas Pepe. Il a à peine joué. Pas titulaire pour l'instant. En championnat.
Super joueur. Il a fait deux rentrées à Newcastle. Il est rentré pour les 20 dernières minutes. Et contre Burnley, il est rentré pour la deuxième période. Mais c'est vrai que cette équipe d'Arsenal est séduisante. Et je suis tout à fait de ton avis. Mais quand on voit les résultats, pour le moment, 1-0 à Newcastle, 2-1 contre Burnley. Et ils ont du mal à concrétiser toutes ces occasions, malgré la qualité des buteurs, malgré la qualité des attaquants. Et je pense que face à une formation de Liverpool qui a autant de certitudes, c'est mission impossible pour les Gunners. Bien sûr, ils vont essayer, mais je pense que ça va, surtout à Anfield, c'est très compliqué. Enfin, je pense que ça va être,
quand même, hein,
oui, ça va être révélateur. Je pense que des progrès que doit encore faire l'équipe d'Unai Emery pour vraiment revenir au sommet.
C'est désespérant pour les supporters d'Arsenal. Vous dites que c'est mis repetita quelque part cette saison, on va espérer.
Non, mais c'est
et
trop...
puis le
oui,
plafond de verre.
Ça va remonter. Ils vont remonter. Mais là, sur cette fin août, comme le dit El Jefe, c'est le début de saison. Ils ont deux matchs de compétition alors que Liverpool a déjà joué la Supercoupe de l'UEFA, le Charity Shield en plus. Et donc, ils sont sur une dynamique incroyable.
Liverpool a perdu défensivement depuis la saison dernière.
Le dernier match.
Oui, mais parce qu'ils font beaucoup tourner, parce qu'ils ont déjà joué deux fois plus de matchs officiels qu'Arsenal.
Oui, mais ils prennent des buts, hein, ils prennent un peu de buts.
Ils ont perdu leur gardien,
et puis je ne sais pas quelle sera la stratégie d'Emery, mais les trios...
Ils n'ont plus que deux, elle aurait fait, il ne faut pas aussi dire.
Oui,
Arsenal a pris un, ils ont pris deux.
Mais ils ne jouaient pas des cadors non plus. Hein, donc, l'année dernière, ils nous avaient habitués à mieux. Quand même.
Philippe Doucet,
ah oui, c'est vrai qu'en 19 matchs, ils avaient pris 7 buts.
Philippe Doucet, c'est une belle pub pour le football africain, ce match avec des Mané, des Salah et des Nabi Keïta. Je ne crois pas qu'il sera sur la pelouse d'un côté, entre autres.
Aubameyang de l'autre.
Aubameyang et puis Nicolas Pepe. Alors Nicolas Pepe qui cherche à rejoindre ce gratin là après une CAN raté. Pour l'instant, il attend sa première titularisation. Est-ce que c'est un test qui peut lui permettre de justifier son transfert et le prix de son transfert surtout ?
Déjà, la Première Ligue est une pub vivante pour le football africain depuis
pas mal
quelques
d'années,
mais notamment l'an dernier avec les trois meilleurs buteurs qui étaient tous africains, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tous ex aequo et tous à 22 buts, Mané, Salah et Aubameyang, évidemment, ça a été une pub fantastique. Il faudra voir, effectivement, Pépé, je pense, c'est pas un joueur à l'image de Dembélé, c'est un grand talent. Un grand talent qui demande sans doute encore à maturer, donc ça prendra sûrement un petit peu de temps, parce que la confiance fabuleuse qu'il avait à Lille, il peut pas la retrouver d'un coup comme ça. Il est plus le leader, la base, en tout cas la base de l'équipe. Tout le monde joue pas pour lui, donc ce sera sans doute un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'on peut fonder des espoirs pour le futur. Pour l'instant, on va s'asseoir sur Aubameyang et Mané, qui sont les vraies bases.
Et puis Guendouzi, quelle classe hein. Quand je l'ai vu jouer au Camp Nou, il est arrivé, il est rentré en cours de match, j'ai vu jouer, quelle assurance quoi. Et le Camp Nou était plein, il y avait près de 100 000 personnes. Il a pris le ballon au milieu de terrain, il s'associait avec les autres, il prenait des risques.
Mais le meilleur joueur lors des dernières rencontres des deux, c'était Dani Ceballos. C'est-à-dire qu'il était pris au Real. Hein. D'ailleurs, il est dans l'équipe type de la Liga. Donc, pour dire quand même qu'au niveau du milieu de terrain, c'est quelque chose qui est
reste
beaucoup...
la défense.
Ah oui.
Reste voilà. L'interrogation défense. Bon, ceux qui aiment David Luiz sont rassurés, les autres restent sceptiques.
C'est peut-être dommage que le Real ait laissé partir un tel joueur, n'est-ce pas, Rémi?
Ce n'est pas dommage parce qu'en même temps, il faut se dire que le Real Madrid a quand même un grand effectif. Il faut dire que pour la première fois en monde, un club a eu à envoyer en prêt pour une saison 28 joueurs. Le Real Madrid. Donc, le Real a besoin de dégraisser et en même temps, le Real a besoin que les gens aillent découvrir une expérience ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que hier, le Real a supprimé la clause qui disait que un joueur du Real qui est prêté à un autre club ne peut pas jouer contre le Real. Le Real a dit donc, à partir de maintenant, vous pouvez jouer contre nous parce qu'ils savent, comme d'ailleurs, qu'ils vont mûrir ailleurs et puis revenir. Mais bon, Dani Ceballos, on ne pouvait pas conserver tout le monde au milieu de terrain.
Liverpool-Arsenal, une affiche à ne pas rater, clairement. Xavier Barré avec deux joueurs qui vont, deux entraîneurs surtout qui pratiquent un style direct, des attaquants qui vont vite. On va voir des buts logiquement.
L'affiche est extrêmement intéressante. Il faut remarquer d'ailleurs que sur les trois premières journées du championnat d'Angleterre, on va voir les six grands clubs, les six favoris qui sont impliqués dans des face-à-face. Hein. On a déjà eu Manchester City contre Tottenham, on a eu aussi Chelsea contre Man United. Et là, donc, on va voir les deux derniers qui n'ont pas été confrontés encore à des gros entre eux, donc Liverpool et Arsenal. Donc, forcément, c'est très excitant de savoir ce que ça peut donner. Mais je pense que Liverpool est quand même au-dessus.
Faire un championnat attractif quand on a six clubs de premier plan, c'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus facile.
mais c'est une bonne démonstration de ce qu'il faut faire. Il faut développer l'ensemble du championnat et non pas miser sur un seul.
On en est encore un peu loin parce que vous parliez de la France et du PSG.
Non, mais de l'Italie aussi, d'autres championnats. Plusieurs championnats. L'Allemagne aussi. Plusieurs championnats souffrent de ça. C'est une vraie souffrance et on s'en rendra compte sur le long terme.
Enfin, c'est la vie en Angleterre. On a eu deux équipes qui ont fini très loin devant les autres.
C'est vrai, mais c'était intéressant à tous les étages. Et les gros matchs sont intéressants.
Voilà. Allez, on va alimenter ce déséquilibre en France. On va dire un petit mot du PSG. On en parlait tout à l'heure. Keylor Navas, c'est en tout cas Marca qui l'annonce, serait proche du Paris Saint-Germain. On a également parlé de Donnarumma, le jeune portier italien du Milan AC. Ce qui est sûr, c'est qu'on semble du côté des Parisiens enclin enfin à apporter une solution à ce problème qui dure depuis trop longtemps, le problème des gardiens de but. Comment on en est arrivé là? Comment le PSG, qui du coup va mettre de côté Areola après l'avoir mis en concurrence plusieurs saisons, comment le PSG a pu se créer ce problème alors que ce poste est si important, François-David?
Bon, vous l'avez dit, Hugo, c'est un poste essentiel et Areola n'a pas confirmé malgré son titre de champion du monde. Il n'a pas su s'imposer. Alors après, je ne sais pas si c'est dans la tête, si c'est au niveau technique. Mais s'ils prennent Keylor Navas, là, ça change tout. Super gardien. Keylor, c'est un super
Zidane
gardien.
Est loin de confirmer. Hein. On a entendu la conférence de presse aujourd'hui.
Oui, mais Keylor aussi, pareil. Est-ce qu'il veut rester un an sur le banc, sachant que Thibaut Courtois sera le titulaire? Après, on débat s'il est meilleur ou non que Keylor Navas. Moi, si on me pose la question, je demanderai aussi à Rémi, mais Pour moi, je préfère Keylor Navas à Thibaut Courtois. Si jamais le PSG le prend, pour moi, c'est une super affaire.
Votre question, Hugo, c'était comment on est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'il y a une instabilité à la tête du club, notamment en ce qui concerne le directeur sportif et le cellule de recrutement. Donc, au début, Leonardo, il avait saisi l'occasion de prendre Sirigu, que personne ne connaissait, qui s'est révélé plutôt un bon gardien, même s'il n'avait pas le très haut niveau, mais il est quand même international italien. Bon, voilà. Et finalement, il y a eu l'opportunité, il fallait en prendre un autre. Ils sont allés prendre Kevin Trapp, qui était jamais que le quatrième gardien
de l'Allemagne.
De l'Allemagne. Et donc, on n'a pas le sentiment qu'ils avaient fait un progrès. Alors, dans cette affaire, il y avait quand même un pur produit du club. D'ailleurs, il y en avait un autre, parce que Mike Maignan, il était passé par le PSG, si je me souviens bien avant. Voilà, et qui est maintenant si bon avec le LOSC. Donc, il y avait des bons gardiens formés au centre de formation. Areola, c'était plutôt intelligent. Il l'avait envoyé s'aguerrir à l'extérieur, à Lens d'abord, puis à Villarreal ensuite. Il fallait continuer dans cette voie. Pof, ils sont allés chercher Buffon pour faire de la publicité, qui est resté un an. Donc, et maintenant, on se retrouve avec Trapp qui est reparti. Et donc, il n'y a plus qu'Areola tout seul. Donc, c'est quand même l'exemple même d'un club qui a très mal géré le recrutement pour ce poste-là.
Est-ce que là, recruter, du coup, un gardien expérimenté serait la solution? Est-ce que recruter est la solution? C'est bon, c'est fini l'ère Areola à Paris, à Raymond Gonod?
Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que chaque année, il y a un problème. Et il faut résoudre, et puis dès qu'on le résout,
on trouve un
autre. Parce que l'année dernière, c'était pas un problème de gardien. Avant cela, c'était un problème d'attaquant. On vient avec Neymar, après on nous dit qu'il faut maintenant un numéro 6. Gay arrive, et on dit c'est bon, on a tout, Camor, c'est bon là. Après maintenant, la défaite, on dit non, le gardien là, c'est le gardien. Donc finalement, mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir raconter aujourd'hui? Areola, c'est un bon gardien. Même Buffon, quand il a été là, on a vu les bourdes qu'il a eu à commettre. N'importe quel gardien, même Keylor Navas, on a eu à commettre avec le Real. Ce n'est pas le gardien seul qui devrait jouer. Donc, pour moi, aujourd'hui, et de surcroît, c'est là où le Paris Saint-Germain, comme je le disais, va retomber dans le piège qu'il a tendu au Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils veulent un gardien. Et là, le Real dit, minimum, c'est 20 millions d'euros. Et en plus de ça, Zinedine Zidane dit, moi, je ne vends pas. Exactement comme ils sont en train de faire avec Neymar. Bon, comment est-ce qu'ils vont faire? Vous nous donnez Neymar, nous vous donnons Keylor Navas, et comme ça on fait le troc. Donc pour moi aujourd'hui, avec un peu plus de quelques millions là,
beaucoup plus de millions. Tu peux pas. Dans l'échange qu'on a évoqué, Neymar a 222 millions d'euros, même s'il est peut-être un peu moins valorisé aujourd'hui. Keylor Navas c'est 10 millions, donc il fallait rajouter Bale et James Rodriguez plus de l'argent pour avoir Neymar.
Neymar aujourd'hui, c'est à peu près 110 millions, et puis Bale c'est 60 millions avec
mais bon, Keylor Navas ça fait pas la paire face à Neymar, on peut pas le dire. Maintenant
il y a un élément
Crédit Bruno a oublié d'expliquer aux supporters du Real Madrid, c'est que pourquoi est-ce que Zidane veut pas le lâcher, c'est parce qu'entre-temps il a lâché tous les gardiens réservistes
dont son fils
Lucas Zidane et le russe Lounine qui est très bon aussi, qui ont été prêtés. Du coup maintenant si il se sépare de Keylor Navas, il a plus de doublure pour Thibaut Courtois.
Je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'on ne parle pas de pommes, de poires ou de Scooby-Doo, on parle de joueurs de football qui sont des êtres humains, qui peuvent dire non, je ne vais pas aller là. Ah bah vous vouliez m'échanger? Ben non, je ne suis pas d'accord. Ah bah si éventuellement, je veux bien un petit... Ah bah si vous me faites un chèque de 15 millions peut-être, ou 20 millions, enfin une prime à la signature, etc. Tous ces montages là, c'est du pipeau intégral, je veux dire. C'est pipeau intégral,
Philippe,
c'est infaisable tout
cette
ça.
Cette séquence sur Neymar a montré une chose qui est catastrophique pour le PSG, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ne veulent pas venir au PSG.
Mais bien sûr, quand je dis bien sûr, ce n'est pas forcément négatif pour le PSG, mais à l'arrivée, ça devient négatif pour l'image du PSG, alors que peut-être tout simplement, les joueurs, ils jouent leur carte personnelle.
Philippe, je ne peux pas être d'accord avec toi, parce que si tu dis que...
Ils veulent tous venir au PSG contre Neymar. C'est pas humiliant du tout.
Parce qu'en même temps, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont croire que nous sommes en train de raconter des balivernes. Oh,
bien sûr.
Je vais vous dire, de la même façon, on a parlé de l'arrivée, par exemple, de Neymar au PSG, mais personne n'y croyait. Neymar est finalement arrivé au PSG. On a parlé d'Eden Hazard qui devait arriver au Real, il est bel et bien arrivé au Real. Les journalistes que nous sommes, c'est-à-dire que parce que nous avons cette carte de presse et parce que nous avons un carnet d'adresses, ça nous permet d'avoir des relations avec parfois des gens qui sont à la maison, qui nous infilent. C'est pas pour rien que avant on vous dit, ceci risque de se produire et ça se produit. Donc si on nous dit subitement que nous sommes devenus des charlatans, personne ne nous écoutera plus.
Mais personne ne pense que vous êtes un charlatan.
Non,
les auditeurs qui nous écoutent et qui malheureusement ne peuvent pas nous regarder sur Facebook, un problème technique empêche d'avoir de l'image sur le Facebook Live. Promis, ce sera réglé.
C'est pas possible.
Promis, ce sera réglé la semaine prochaine.
C'est comme le pied des Neymar, mais
c'est pas possible. Alors que j'avais mis une chemise vert fluo, franchement.
Exprès.
J'ai repassé ce t-shirt depuis 8h du matin, c'est pas possible.
C'est un complot, peut-être. Peut-être un complot, mon cher Rémi. Allez, il est bientôt l'heure de fermer boutique. Les cartons du Café des Sports.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Alors c'est très impoli, mais je vais me permettre de commencer par le carton de Radio Foot, si vous le voulez bien. Il est vert, adressé au Racing Club de Strasbourg. Je vais arriver à le dire. Succès 1-0 en barrage aller de la Ligue Europa hier. Succès contre Francfort, demi-finaliste l'an passé de cette même compétition. S'il vous plaît, merci Kevin Zoe, ivoirien, déjà buteur lors du tour précédent. Et merci aussi au public strasbourgeois, celui de la Méno. Il ne boude pas son plaisir, celui de respirer à nouveau le parfum des soirées européennes, même en barrage. Petit extrait.
C'est le derby.
Les supporters de Strasbourg qui adaptent du Diams pour célébrer leur joie de venir assister à un barrage d'Europa League. Ouais, vraiment étonnant ce public. Xavier Barré.
Hugo, et je vais dire que c'était mon carton.
Enfin, et ben on va
carton
le partager
public,
justement.
Au public, justement, carton vert, parce que franchement, je pensais pas que le Racing Club de Strasbourg, j'étais moi leur match du premier tour contre le club israélien de Maccabi. Je pensais pas qu'ils pourraient aller loin et surtout battre l'Eintracht Francfort compte tenu des faiblesses qu'il y a devant dans cette équipe. Et avec le soutien de ce public extraordinaire qui est encore une fois transformé la Méno en une véritable show. Eh bien, ils ont réussi à s'imposer et du coup, ils ont peut-être une chance d'aller en phase de poule et ça, c'est bravo.
C'est les derbies des mangeurs de saucisses aussi, donc visiblement.
J'en étais sûr. Vous avez commencé là-dessus, on était sûr qu'il y aurait.
Ah,
alors, les quelques personnes astucieuses parlent de saucissico. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous apprécierez.
Magnifique.
On a une pensée pour David Finzel qui a pensé également. Les cartons, Philippe Doucet.
Un carton rouge au football business avec la démonstration dont nous avons largement parlé, l'affaire Neymar, le ridicule de toutes ces transactions en plein championnat qui font qu'on ne parle absolument pas de foot. Les matchs n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a 3 joueurs en face de Neymar ou 1 ou 2, que le président pense ci, pense ça. Je trouve que c'est la négation du football. Bravo à la Première Ligue, carton vert à la Première Ligue qui, elle, arrête le mercato le jour du début du championnat. C'est évidemment la vraie solution de raison.
Rémi Ngono, le carton.
Alpha Camara de ma page Facebook, Rémi Ngono officiel, donne un carton rouge à la FIFA et à l'UEFA, bien évidemment, qui ne parviennent pas à stopper cette histoire de racisme. On a encore pu voir les joueurs noirs qui ont été totalement pris à partie. Donc, Pogba, ça fait pratiquement 3 en une semaine. Donc, finalement, chaque fois on parle, on ne trouve pas de solution. Et finalement, c'est le racisme qui va tuer le football. Comme dit un proverbe africain, une seule dent pourrie fait sentir toute la bouche.
François David, notre invité. On termine par vous.
On a carton jaune. Hein.
Carton jaune, carton
oui,
rouge, carton vert.
Tout
rapide.
Bon, carton jaune pour le Betis Séville, qui va jouer ce week-end contre le Barça. Une défaite, c'est une défaite lors du premier match. Mais j'ai envie de voir Nabil Fekir au Camp Nou. J'ai envie de le voir dans cette grande enceinte. Et on espère que du carton jaune, ça va passer au carton vert, la couleur d'ailleurs du Betis.
Et moi, j'ai un carton blanc et rouge pour Fernando Torres qui a joué aujourd'hui son dernier match au Japon avec son équipe des Sagan Tosu. Il quitte la carrière malheureusement sur une défaite 6-1 face à l'équipe d'Iniesta Kobe, Vissel Kobe. Mais bon, quand même, c'est une belle carrière avec plein de trophées.
Merci à tous. Radio Foot revient lundi. En attendant, Mondial Sport ce week-end sur RFI. Soyez à l'écoute. Ciao.